Donc, bonsoir à tous en ce lundi 28 décembre de l'année de grâce 2020, le dernier 28 décembre de l'année 2020. Donc, la semaine prochaine, quand on va se voir l'année prochaine. On va tout simplement prier, se remettre entre les mains du Seigneur. J'aimerais tout de suite entrer, suivant ça, une très, très légère rétrospective et avancer le sujet. Donc, nous allons prier. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous livrons, Seigneur, à toi. En quelle meilleure main pourrait-on se trouver qu'entre les tiennes, ô Dieu? Toi, Seigneur, qui connais, Seigneur, les tenants et les aboutissants de cette vie. Toi, Seigneur, qui connais, Seigneur, les temps, les moments. Tu savais, Seigneur, que nous serions là. Ceux qui sont, Seigneur, ceux qui vont y être en différé plus tard. Tu connais toutes choses, Seigneur. Donc, c'est pour cela que nous prions et nous soumettons notre volonté et nous soumettons nos pensées, nos cœurs, nos âmes à toi, ô Dieu, sachant, Seigneur, que tu es le Dieu de toute grâce qui peut nous faire grâce sur grâce, ô Dieu. Donc, Seigneur, je te confie ce moment particulier que nous prenons à l'étude de ta parole, une étude toute simple, ô Dieu, qui se veut tout simplement de l'information, qui se veut une information un peu générale sur un livre particulier qui est le livre des Actes des Apôtres. Seigneur, donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien aujourd'hui, Seigneur, qu'on puisse avoir une nourriture pour nos âmes. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. On prend le livre des Actes des Apôtres. Vous ouvrez dans Actes des Apôtres. On va, comme je vous ai dit, une légère, légère rétrospective de la semaine dernière. J'aimerais vous lire le chapitre 4, les versets 32 à 37. Rapidement, vous rappeler un peu comment on a terminé. Donc, le texte nous dit au verset 32 du chapitre 4 de Actes des Apôtres, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, un Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et ceci va nous lancer vers cela, c'est-à-dire vers un texte particulier de Actes des Apôtres où les gens se questionnent beaucoup à propos d'Ananias et Saphira. On voit ici que les gens, de façon spontanée, et je vous avais donné des raisons la semaine dernière, aussi des raisons qui étaient d'ordre économique, d'ordre, voire des gouvernances qui arrachaient les possessions des nouveaux convertis. Et comme je vous avais donné la semaine dernière, après cette pratique-là, on voit dans les épîtres de Paul, jamais Paul a conseillé aux croyants de tout mettre en commun. C'est l'inverse, c'est-à-dire que chacun a ses propres choses, mais par contre, il y a des choses qui nous sont communes, et je vais y venir dans d'autres études. Il y a des choses qui nous sont communes, et ce Paul va mettre un emphase là-dessus, dont dîmes et offrandes, où Paul met un certain emphase aussi là-dessus. Mais ici, ce qu'on trouvait, ce que je vous avais donné la semaine dernière, c'est que les gens, de façon spontanée, peut-être, comme je vous ai dit, que certains pensaient que Jésus viendrait dans le mois suivant ou dans l'année suivante, et ils disaient, bon, ça donne plus grand-chose de faire des récoltes, des semailles, ou plus probablement à cause des persécutions. Les gens vendaient, distribuaient l'argent entre eux, mais ce n'est pas tous qui le faisaient. Et ici, je fais un arrêt pour vous dire quelque chose. On étudie un livre. On n'est pas en train d'étudier un sujet particulier. C'est sûr qu'à travers l'étude du livre qu'on fait, on aborde des sujets particuliers. Mais c'est pour ça que je ne creuse pas trop profondément. Sinon, vous comprendriez que l'étude durerait vraiment très, très, très longtemps. Si je prendrais un verset, puis on se mettrait à le décortiquer avec les termes originaux, le grec et ainsi de suite. Mais on fait l'étude d'un livre. Et ce livre-là comporte des sujets. Donc, on traite le sujet, mais on traite le sujet à l'intérieur, naturellement, de l'étude du livre de Actes des Apôtres. Et ici, on peut voir cet événement-là qui se passe, qui va nous amener à un événement malheureux que l'Église a vécu avec Ananias et Saphira. Soyons clairs. Et la semaine dernière, je vous avais donné le nom d'une personne au verset 36 du chapitre 4. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, un Lévite originaire de Chypre. C'est le même Barnabas qu'on retrouve avec Paul dans Actes des apôtres. Cet homme-là était fidèle, cet homme-là a posé des gestes qui fait que le Seigneur l'a amené au niveau de la foi un peu plus loin. Et au niveau du service, un peu plus loin. Donc, on va prendre le cas maintenant. Là, on avance plus loin. On va prendre le cas d'Ananias et de Saphira. Et j'aimerais terminer, si on a le temps, avec l'institution des diacres. Pourquoi? Parce que je vous en avais parlé un peu la semaine dernière, en mentionnant même le nom d'un frère qu'on a ici à l'église. Et je vous avais dit, ben, le frère Lionel, même s'il n'a pas été présenté tel quel comme diacre, remplit cette fonction-là. Et on va voir que la fonction, elle est biblique. Et on va voir que même si eux-mêmes, dans Actes des Apôtres, ne sont pas mentionnés du nom diacre en commençant leur ministère, j'ai toujours dit, ce qui est important, c'est pas le titre qu'on accroche sur une porte ou qu'on nous accole, mais c'est le travail qui est fait devant Dieu qui donne ni plus ni moins que la fonction que l'on occupe au sein du corps de Christ. Donc, vous tournez maintenant dans Actes chapitre 5 avec les versets qu'on a pris tantôt. On a terminé chapitre 4. Chapitre 5, on va faire un certain arrêt sur le cas de Ananias et Saphira. Donc, je vous fais la lecture des 11 premiers versets de Actes 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et en retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est right, c'est correct. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, donc il aurait pu ne pas être vendu, il aurait pu le garder. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. À raison. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, c'est là qu'on voit, environ 3 heures plus tard, comment la discussion s'est déroulée entre Pierre, parce qu'ici, il nous en est rapporté une partie, entre Pierre et Ananias. Ce n'est pas le fait qu'il avait retenu de l'argent. C'est le fait qu'elle avait dit qu'elle avait donné la totalité de l'argent. Regardez bien. Environ 3 heures plus tard, au verset 7, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et dit-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ce cas-là qui a été largement discuté, largement, est-ce que là, ces gens-là ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit et ainsi de suite, je ne m'avancerai pas aussi loin que ça ce soir parce qu'il faudrait creuser encore plus profond. Et comme je vous l'ai dit et comme je vous le rappelle là maintenant, le but de notre étude, on ne creuse pas un sujet, on est en train de regarder un livre et naturellement les sujets à l'intérieur du livre. Donc, on voit un homme et une femme qui s'entendent. Ils s'entendent pour mentir à Dieu. Ils s'entendent pour vendre un champ, pour amener une partie du prix du champ, en retenir une partie pour eux et dire « on a vendu un champ à tel prix », étant un mensonge, « à tel prix et nous apportons l'argent comme font les autres pour la distribution des besoins de l'Église. Pierre, entendant ça, par une révélation, va dire à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à Dieu? Et Ananias expire, et comme on le lit, meurt. Sa femme, trois heures après, entre. Pierre lui pose la même question. Il y a le même type de réponse. Et la dame, il lui arrive la même chose qui est arrivé à son époux. Soyons clairs, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Ananias et Saphira? On ne le saura jamais vraiment, mais on peut avoir une certaine idée, étant des humains, nous aussi, et subissant quelquefois des influences négatives, des influences extérieures, des gens qui vont, par leurs actions, par leurs paroles, qui vont nous amener à poser des gestes qui sont, somme toute, pas un mauvais exemple, mais des gestes que nous n'aurions pas posés de nous-mêmes. Et c'est là que je dis souvent à des chrétiens, Dieu ne nous demande pas tous la même chose. Il y a des choses qui demandent à tout le monde la même chose. La sainteté, il le demande à tout le monde. La sanctification, il le demande à tout le monde. Il y a des choses de base qui est demandée à tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le même appel pour le ministère. Ce n'est pas tout le monde qui a le même appel de Dieu pour certaines choses. Il y a même, quand Paul va parler aux églises, dans les épîtres, il va dire même qu'il y a des gens qui ont le don, on va appeler ça même, de donner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, de façon poussée par l'Esprit de Dieu, vont donner, se séparer, laisser aller des choses plus facilement que d'autres. Il n'y a pas si longtemps que ça, vers la fin de l'été, il y a une dame à l'église qui, sa bicyclette ne fonctionnait plus très, très bien. Et j'ai dit à ma femme, pourquoi tu ne lui donnerais pas ta bicyclette dont tu ne te sers plus? D'accord? Par la grâce de Dieu, j'ai une femme qui ne retient pas. Okay? Elle a regardé, elle a supposé les choses, voir si elle s'en servirait. Elle dit non, je ne m'en servirai pas. Donc, j'appelle la soeur, je viens chercher le vélo. Et vous savez une chose, ma femme n'est pas en train de pleurer sur la perte de son vélo, là. Soyons clairs. Puis il y a des gens pour qui les choses, ils vont plus s'attacher. Le problème d'Ananias et Saphira, c'est probablement, voyant faire les autres, ils ont été impressionnés par la conduite des autres qui vendaient leur champ, leur propriété, amenaient le tout devant les apôtres. Ils se sont laissés influencer. C'était pas une mauvaise influence, c'était une bonne influence. Quel pasteur se plaindrait que le peuple est trop généreux? Soyons clairs, ça lève l'œuvre de Dieu et ainsi de suite. Mais l'influence extérieure qu'ils ont eue, ils auraient dû attendre, faire une pause, un arrêt. On doit être influencé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous amener. Et là, je ne vous parle pas pour les choses de base, encore une fois. Et j'oserais même dire, et je vais me rendre jusqu'à vous dire, je ne vous parle pas de votre dîme. La dîme, pour moi, ça fait partie d'une chose de base. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Et soyons clairs, là, je l'ai déjà dit d'en avant de la tribune, et je le répète à cette heure-ci, celui qui veut, qui ne donne pas avec joie, eh bien, qui ne donne pas. Là. Soyons clairs. On doit avoir la joie. On ne parle pas d'amener son enveloppe de dîmes ou d'offrandes en trépignant. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle avec une joie intérieure de donner à l'œuvre, d'une paix intérieure d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est de ça que je parle. Ce qui n'était visiblement pas le cas de ce couple. Ce couple-là, Ananias et Saphira, se sentant un peu forcés par la générosité des autres, ont commis un acte répréhensible. À cause que tout le monde mettait tout en commun, ils ont décidé d'amener une partie. Regardez bien ce que Pierre leur dit. Pierre leur dit au verset 3, à Ananias en premier, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pas au point que tu ne donnes pas tout, au point que tu mentes à l'Esprit de Dieu, que tu mentes au Saint-Esprit. Et ensuite de ça, que tu as retenu une partie du prix du champ. Le problème, ce n'était pas la retenue. Le problème, c'était le mensonge. Vous allez me dire, ouais, mais Pasteur André, je sais qu'aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu ferait la même chose, peut-être qu'on aurait un hécatombe et quand même à plusieurs pasteurs, on ne pourrait pas fournir pour faire les enterrements, soyons clairs. Mais on est au début de la vie de l'Église. Dieu est en train de mettre en place le fonctionnement de base, les choses de base. Pourquoi eux? Pourquoi une telle sentence sur leur péché quand on sait que d'autres mentent, que d'autres ont menti? J'ai déjà posé des questions lors de relations d'aide et les gens ne me disaient pas la vérité. Soyons clairs. Et comme j'ai déjà dit une fois à quelqu'un, je dis, écoute, ce n'est pas parce que je dis rien que je sais rien. Ce n'est pas parce que je dis rien que je suis bête, là. Je respecte certaines choses, mais pourquoi tu viens me voir si tu n'es pas prêt à prendre le conseil que je vais donner? Si tu viens me voir juste pour avoir une approbation, eh bien, il y a problème. Une dame m'a appelé cet après-midi d'une autre assemblée, pas de notre assemblée, hein, pour avoir un conseil pour sa fille. Et je sentais cette dame-là bien disposée à recevoir le conseil. Et je lui ai dit quelque chose que je savais que d'entrée de jeu, c'est pas quelque chose qu'elle dirait, ah, mais gloire à Dieu. Je lui ai dit, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Parce qu'elle me parlait de sa propre fille, c'est normal, c'est la maman. Hein? Elle me parlait de sa propre fille. Et j'ai dit, je ne peux pas aider parce qu'elle voulait que je fasse une relation d'aide avec sa fille. Je ne peux pas aider ta fille si elle ne désire pas d'aide. Donc, j'ai dit, tu vas lui transmettre mes coordonnées et si elle avait de l'aide, on va commencer par rentrer en contact avec son pasteur à elle. Pour pas que je me mêle des choses d'une autre église, soyons clairs. Et Dieu voulant, peut-être que je la rencontrerai, elle et sa famille. Mais la dame était prête à entendre cela. Naturellement, c'était décevant pour elle de l'entendre. Elle aimerait que je dise plutôt, donne-moi son numéro de téléphone, je téléphone maintenant, tout en sachant que ça ne leur a rien donné, soyons clairs. Mais je lui dis, il faut qu'elle sente son besoin et qu'elle demande cette relation d'aide-là. Si ces choses-là ne sont pas là, eh bien, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Donc, notre couple, Ananias et Saphira, au lieu de dire les choses telles qu'ils étaient, ont pris un autre chemin. Ont pris un chemin par lequel Dieu n'a pas laissé passer. Comprenons-nous bien, ce n'est pas Pierre qui a mis un terme à leur vie, ce n'est pas Pierre ou d'autres apôtres qui ont prononcé une condamnation sur eux. Pierre n'était que le porte-voix de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que ces gens-là ont expiré, premièrement. Et ça nous est arrivé, le pourquoi de la chose. Pourquoi une sentence aussi élevée sur un péché que des gens calculeraient aussi banal que le mensonge? Premièrement, on est au début de la vie de l'Église. Les paramètres, Dieu est en train de les mettre en place. Les jalons dans lesquels l'Église allait fonctionner étaient en train d'être mis en place. Comme il y avait une très grande puissance dans l'Église, Dieu mettait des jalons à travers certains événements, à travers certaines choses. Il y a des choses aussi que Dieu ne laissait pas passer. Et à ce niveau-là, il est dangereux. Et là, je quitte le domaine de l'argent, de la vente d'une chose, de dîmes, des offrandes, et ainsi de suite, pour rentrer dans un domaine un peu plus large. Bien-aimé, il faut faire attention, c'est dangereux d'entraver le travail de l'Église. Des gens qui cherchent à ralentir l'Église, qui prennent des pasteurs en grippe, en porte-à-faux, des gens qui ont eu des différends avec des bien-aimés et qui vont écrire sur les médias sociaux des choses pas très, très convenables concernant d'autres bien-aimés pour trouver un peu de justice ou une certaine forme, voire de vengeance. Moi, je ne sais pas. J'avoue que vous pourriez écrire ce que vous voulez de moi, ces médias sociaux. Je ne vais jamais sur les médias sociaux. Je suis abonné aux médias sociaux. Donc, vous pourriez écrire, « Hey, le pasteur André, c'est un crétin chauve. » Et passe-moi l'expression, là. Probablement que je ne le saurais jamais. Soyons clairs, parce que ma femme est gentille. Ça n'ira, me le dira pas. Soyons clairs, parce que moi-même, je ne vais pas là-dessus. Mais on sait qu'il y a des comptes qui se règlent comme ça. Donc, il faut faire attention de ne pas entraver la vie d'un autre bien-aimé, encore moins d'entraver l'avancement du royaume de Dieu, l'avancement de l'Église de Dieu en donnant un témoignage avec lequel les gens de l'extérieur vont voir et vont nous mépriser. Ils vont dire, hey, c'est ça l'Église de Dieu, regarde leur interaction. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'autre chose, c'est d'impliquer, et ça c'est encore plus dangereux, ce qui s'est produit là, d'impliquer à l'Esprit de Dieu dans un acte impur, un mensonge, entre autres. Il vaut mieux se taire. Et c'est encore plus grave parce que la parole de Dieu nous dit, et ici là, je fais un arrêt, la parole de Dieu nous dit de ne pas faire un blasphème contre le Saint-Esprit, que c'est un péché qui ne sera pas pardonné. Et si je fais un arrêt en vous disant, je ne crois pas qu'ils ont commis ce type de péché-là, parce que ce type de péché-là demande vraiment une volonté, une connaissance de savoir quel type de péché. Ce n'est pas facile à commettre, là, ce péché-là. Ce n'est pas facile du tout. Ils l'ont frôlé, ils l'ont fait probablement par inadvertance, mais ils ne l'ont pas fait de façon très sciente. Okay? Soyons clairs. Ce péché-là d'Ananias et Saphira, et c'est un péché grave, le mensonge est grave, mais encore plus de la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le péché d'Ananias et Saphira est à l'opposé du péché des pharisiens. C'est-à-dire, les pharisiens attribuaient au Saint-Esprit l'œuvre du Saint-Esprit au diable. Hein? On dit à Jésus, exemple, quand ils l'ont vu faire des miracles, ils ont dit c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Ils ont attribué au diable, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, en fait. Tandis que Ananias et Saphira, ils ont attribué l'œuvre du diable au Saint-Esprit. Exactement l'inverse. Ils ont attribué leur œuvre à ce niveau-là qui était. Là, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de mensonges publics, de mensonges devant l'Église de Dieu. Ils ont attribué ça à l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il y a eu une correction très sévère. Et encore ici, je fais un arrêt pour vous dire une chose claire. Nous, on voit la fin de notre vie, on ne le dit pas, mais souvent on voit la fin de notre vie comme la fin. Mais Dieu ne conçoit pas, bien-aimé, ni la vie, ni la mort, comme vous et moi. La parole de Dieu nous dit, à propos de Moïse, d'Abraham, d'Israël, et ainsi de suite, l'Épître aux Hébreux nous dit, car pour lui, tous sont vivants. Pour nous, Abraham est mort. Mais pour Dieu, quand Abraham est mort physiquement, Dieu est plus intelligent que nous. Là. C'est bien que la partie biologique de son être était mort. Mais pour lui, la vie se continue après la mort biologique. Donc, ne regardez pas cet événement-là que du point de vue biologique. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Ils sont physiquement décédés. Mais pour Dieu, Dieu ne conçoit pas la vie et la mort comme vous et moi. Quelqu'un qui décède, pour nous, ben, c'est la fin de sa vie. Mais pour Dieu, il est seulement déménagé. Non? Et aussi curieux que ça puisse paraître, c'est un peu comme ça que j'avais expliqué à mes enfants plus jeunes, quand mon fils est décédé et que je suis revenu avec la veuve à la maison après un grave accident, mon épouse m'avait dit « Comment on va l'annoncer aux enfants? » J'avais des enfants plus jeunes et je me rappelle de la première chose de les avoir dit parce qu'ils s'attendaient à ce que je ramène leur grand frère pour le voir après la noce parce qu'il s'était marié quelques jours auparavant. Il est décédé dans son voyage. Et je lui ai dit, Gabriel est déménagé. Il est déménagé dans l'éternité. Pour nous, on ne le verra plus, du moins pas de ce côté-ci du ciel. Mais soyons clairs, pour Dieu, il est toujours bien vivant. Il est toujours en vie. Donc, à ne pas regarder l'événement de Ananias et Saphira du même œil humain qu'on regarde la vie. Parce que je disais à quelqu'un qui allait vers sa fin, il était malade, et je lui disais, la vie, mon ami, c'est plus que le corps. Ton corps n'est que le véhicule de ta vie. Quand ton corps ne sera plus utilisable, ta vie se continue. Hein. Donc, gardez cette pensée-là quand on regarde pour Ananias et Saphira. D'accord? Et Ananias et Saphira ont fait quelque chose, somme toute, qui était grave devant l'Église, grave devant Dieu. Et les jalons de l'Église, cette Église-là est en train d'être mise en place. Et leur vie physique s'est terminée. Parce qu'ils ont appliqué, ils ont attribué, ils ont dit, attribué à l'œuvre du diable au Saint-Esprit. Ça n'a pas passé devant Dieu, soyons clairs. Paul va dire, si vous tournez, on va prendre juste un autre verset concernant ça, tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On pourrait en prendre plusieurs, mais je vous l'ai dit encore une fois, je vous le répète, on n'étudie pas un sujet, on aurait pu creuser, mais on étudie un livre, et le sujet est dans le livre. Donc, on y touche, c'est certain. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, des versets 27 à 33, que à peu près tous les enfants de Dieu connaissent bien, que je veux relire pour vous, verset 27 du chapitre 11 de 1 Corinthiens, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Donc, l'Église est important pour Dieu. C'est ce qu'ils n'ont pas discerné, là, Ananias et Saphira ici. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. c'est encore valide aujourd'hui, là, le 28, lundi le 28 décembre de l'année 2020, c'est encore valide. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Même si tu meurs, c'est juste un châtiment devant Dieu. Ce n'est pas la fin de la vie. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés. Châtiés, ce n'est pas condamné. Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, entendez-vous les uns les autres. Il aurait dû s'entendre. Il aurait dû dire à Pierre, on t'en donne une partie. On ne se sent pas safe. On en garde une partie. Vous comprenez? C'était peu banal. Là, tu vas me dire, oui, mais pasteur André, j'ai pas menti, j'ai rien fait et je suis malade. Croyez-moi, j'ai une santé un peu fragile, moi, et ça depuis des années. Et je pense pas d'être un plus grand pécheur que personne. Je pense pas être mieux que personne. Je pense pas d'être pire non plus. Peut-être, mais selon mon analyse, je crois pas d'être pire. Donc, il faut pas non plus apporter la condamnation. C'est là que je veux faire le contrepoids, de faire la condamnation. Quelqu'un est malade, quelqu'un, non, meurt, c'est parce qu'il a péché. On a tous péché, je crois, c'est en passant. Et c'est juste la grâce de Christ qui nous sauve. C'est juste par le moyen de la foi qu'on obtient ce pardon-là, cette faveur-là imméritée du salut. Donc, il ne faut pas regarder uniquement sous cet œil-là. Il y a une balance à avoir. La balance, c'est qu'on vit dans un monde de péché. Ce monde-là est sous une malédiction. Ce monde-là est sous une malédiction et le péché existe dans le monde. Et quand le péché est rentré avec Adam et Ève, ben, la mort est rentrée avec tout son petit cortège, comme un petit train. Là. La mort avec la maladie, les problèmes, tout est rentré ensemble. Et vous, soyons clairs, Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, je te prie de les garder du mal. Puis de les garder du mal, ce n'est pas le mal tel que vous l'entendez. C'est qu'on fasse le mal entre autres. D'accord? Ceci étant dit, Ananias et Saphira, je ne crois pas que ces gens-là ont commis le blasphème du Saint-Esprit. Je crois que ces gens-là ont servi d'exemple parce qu'il y avait des choses qui étaient en train d'être établies. Il y a des gens qui ont fait des choses des fois plus graves que ça dans l'Église et sont encore bien en vie. Sont encore bien en vie, sont encore là. Est-ce que Dieu a deux poids, deux mesures? Non, Dieu ne conçoit pas les choses comme nous, dont la vie et la mort. Quelqu'un qui garde bien ça en pensée va voir ce passage-là de façon différente. J'aurais pu creuser un peu plus, mais je me contenterai tout de même, tout simplement, de l'événement que ça a produit. Après vous avoir expliqué un peu qu'est-ce qui s'est produit, la mécanique de ce qui s'est produit, j'aimerais vous en donner la résultante, le résultat, si vous voulez. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui apprirent ces choses-là. Qu'est-ce que ça le fait? Ça le fait que l'Église débutante n'a pas dérapé trop rapidement. Soyons clairs. S'il arriverait dans l'Église, dans notre Église, que quelqu'un dise « Pasteur, j'ai un témoignage à faire », et il est en train de donner un témoignage, il en met, je prends l'expression, il en met un peu plus que le client demande, il va trop loin, il dit des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, des choses qui ne sont pas là, et la personne est devant le micro, elle dit « Ça s'est passé comme ça », puis bang! Terminé. Je suis certain que le deuxième témoignage, la personne qui vient après, qui disait « Ah, moi aussi, pasteur, j'ai un témoignage à faire », probablement que le témoignage serait beaucoup plus exact. On va s'arrêter là, d'accord? On va s'arrêter là. Applicable à plusieurs choses, applicable de plusieurs façons, mais ça a créé un mouvement dans l'Église de crainte. Est-ce que Dieu veut qu'on le craigne? Tout à fait. Dieu veut qu'on l'aime, puis Dieu, il veut qu'on le craigne. Soyons clairs, j'ai élevé tout de même 5 enfants. deux qui étaient à moi et mon épouse, et trois autres qu'on a été chercher. Et tous mes enfants, je les ai élevés de la même façon. Et aujourd'hui, ma grande fille, quand elle vient chez moi, même si ce n'est pas ma fille naturelle et ni celle de mon épouse, quand elle vient à la maison, elle sait qu'il y a un certain comportement qu'elle ne peut pas avoir en présence de papa et maman. Elle sait que papa et maman, il y a des choses qui ne tolèrent pas. Il y a des mots qui ne se disent pas chez moi. Il y a des choses qui ne rentrent pas chez moi. Et ainsi de suite. Elle le fait par respect. Aujourd'hui, c'est rendu une femme, soyons clairs. Mais j'ai déjà dit à mon fils, qui est un adulte, qui est rendu à 33 ans, à un moment donné, il est excité d'une affaire. Dans ce temps-là, il avait peut-être 20 quelques années. Il rentre et il me dit, Hey, man! Puis je dis, Non, man, c'est ton ami dehors, ça. Man, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis ton père. Je m'appelle papa. Je suis ton père. Même chose quand j'ai eu mes petits-enfants. Ils arrivent, comment tu veux que mes enfants t'appellent avant que ça grandisse, qu'on le montre? Je lui dis, écoute, j'ai attendu assez longtemps pour avoir des petits-enfants. Là. Ils vont m'appeler grand-papa, moi. Grand-maman fera ce qu'elle veut, mais moi, ils vont m'appeler grand-papa. Pas par mon prénom ou d'autres sobriquets. Ils vont utiliser le bon mot. OK, soyons clairs. Ça crée quoi tant qu'on élève des enfants? Et pourtant, on aime nos enfants. Ma belle-fille rit souvent quand j'appelle mon garçon ou que je parle avec. Ah, salut mon petit bébé, comment il va le petit bébé à papa? Mes petits-enfants me regardent et disent, c'est mon papa. Mais je dis, moi, c'est mon petit bébé. Ton papa, c'est mon petit bébé à moi. Et c'est un peu un jeu, un peu avec mes petits-enfants. Mais même si j'aime beaucoup mon fils, même si mon fils sait beaucoup que je l'aime, même si mon fils s'est rendu un adulte, je l'ai élevé avec un certain respect, une crainte respectueuse, si vous voulez, de mon titre. Je ne suis pas son ami dehors, je suis son père. Dieu, ce n'est pas votre chum. Dieu, c'est Dieu. C'est votre Seigneur. C'est votre Sauveur. C'est votre Maître. C'est pas votre ami. C'est pas mène dehors quand tu parles à Dieu. Quand tu lui dis que ça va, ça n'a pas été bien dans tes choses. Il y a un certain, ah oui, j'emploie le terme décorum. Soyons clairs. Et Ananias et Saphira se sont retrouvés de la façon dont ils sont se retrouvés. Ceci étant dit, je veux vous amener un peu plus loin. Je vais avoir le temps de toucher le dernier sujet. Dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, on voit ici, et cette partie-là, je vais la passer plus rapidement, on voit ici que l'Église primitive, marchait dans cette puissance-là et faisait l'expérience de cette grâce-là surabondante qui amenait les foules, il n'y avait pas de parole écrite encore. Donc, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? L'Esprit de Dieu mettait les bouchées doubles. Vous comprenez que c'est une expression que j'emploie, là. Dieu finit pas sa journée de travail en disant, Oh, je suis soufflé, c'était dur aujourd'hui, là. Soyons clairs, soyons clairs. Mais on voit l'expansion à travers les différents miracles qui se produisent, à travers la prédication et même ce que les gens voyaient de leurs yeux, tout ce qui s'accomplissait. Et ça a permis à l'Église de prendre une expansion rapide. Et à cause de cette expansion-là rapide, il y avait beaucoup à faire, il y avait beaucoup à gérer, il y avait beaucoup à regarder. La parole de Dieu nous dit. Que les disciples s'assemblaient. Rappelez-vous, je vous ai parlé des menaces que les apôtres avaient eues et on voit ici au verset 12 où ils s'assemblaient, la partie C du verset 12, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ce n'était pas caché. C'était au portique de Salomon. Rappelez-vous qu'ils ont déjà été arrêtés une fois. Ils ont déjà été menacés. Et là, on va voir que l'ennemi, à travers les pharisiens, va aller encore un peu plus loin dans les menaces, encore un peu plus loin dans l'intimidation. Et c'est pour ça que je dis souvent à des bien-aimés, c'est sûr que si tu annonces la parole de Dieu, certain que si tu as le cœur à l'évangélisation, à l'enseignement ou à toute autre chose que le Seigneur place sur ta route, c'est sûr que l'ennemi ne donnera pas la main d'association. Il va chercher par les moyens à sa disponibilité, tout dépendant dans quel état tu te trouves, à mettre des entraves, à ralentir ta marche. Donc, on voit que l'Église ici avance bon pas à cause de tout l'ensemble de ce qui se passe autour des apôtres. Cette Église-là, plus particulièrement pour ceux qui se posent la question, au verset 13, où c'est écrit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. C'est-à-dire que le peuple voyait tout ce qui se faisait et les autres ne se joignaient pas à eux, étaient probablement des gens soit sympathiques à la cause. Un peu ce que j'expliquais à un moment donné à un de mes frères dans la chair à propos d'une connaissance qui nous est commune. Je disais, là, il y a une différence entre quelqu'un qui est sympathique à la cause et quelqu'un qui est adhérent à la cause. Quelqu'un qui est sympathique va dire, hey, ça a de l'allure, leurs affaires. Oui, c'est des bonnes personnes. Mais ça n'influera pas ces gens-là un mouvement vers l'avant. Tandis que quelqu'un qui adhère, tu n'auras pas besoin de l'amener. Il va y aller de lui-même parce qu'il va comprendre son besoin. D'accord? Ceci étant dit, l'Église est en expansion, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Qu'est-ce que ça provoque? Ça va provoquer ici un mouvement pour ralentir cette chose-là. Ici, je vous fais une longue lecture, c'est-à-dire au chapitre 5, les versets 17 à 42, et je ne sais même pas si je vais avoir le temps de tout passer, là, à moins que je vous garde un peu plus longtemps. Verset 17 nous dit, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent. Naturellement, l'expansion de l'Évangile arrive, ça vient jusqu'à leurs oreilles, des attroupements dans le temple, se levèrent, remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez et tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Sont jetés en prison, un ange arrive, les délivre pas en disant, prenez vos jambes à votre cou. Quand Dieu nous délivre, que ce soit d'une situation, je ne parle pas au Canada, les persécutions de ce style-là ne sont pas vraiment là. Des fois, les persécutions peuvent revêtir d'autres habits, soyons clairs. Quand la persécution arrive, c'est pour nous faire taire, soyons clairs. Le pasteur Florent disait, il n'y a pas longtemps, dans une réunion qu'on a eue, pastorale, il disait, depuis la pandémie, on n'a jamais été on n'a jamais livré autant de messages. Et bien d'accord avec lui, puisque sans la pandémie, probablement que je ne serais pas assis en face de vous dans mon bureau devant un ordinateur, parce qu'il faut avouer que ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé de faire ça. Mais soyons clairs, la pandémie a poussé des choses à l'avant. La persécution a poussé des choses à l'avant. Ici, l'ange les délivre, et les délivre pour un but bien précis. Il dit, allez, tenez-vous dans le temple. Et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. De quelles paroles il parle? Regardez bien. Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. C'est ça les paroles de cette vie. Les autres, vous savez, des fois, on a beaucoup de sujets de conversation qui sont plus ou moins utiles. Il y a une seule chose qui va rester à la fin. Souvent, je parle avec mon épouse quand on traverse certaines choses, des fois plus difficiles. Je dis, de toute façon, à la fin, tout ce qui va rester, c'est l'Évangile. La maison, les comptes de banque, pour ceux qui ont de l'argent, et ainsi de suite. Tout cela passe. Tout cela passe. Soyons clairs. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens, tous les fils d'Israël, les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » Et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Dieu leur donne encore un témoignage à ces gens-là. Verset 25. Quelques-uns vinrent leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple, parce que le peuple les louait grand, hautement. Souvenez-vous, verset 27, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut, quand ça devient une prérogative dans ta vie. Dans la vie des apôtres, c'était une prérogative. Il faut se poser une question, est-ce que c'est une prérogative pour nous? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël. Et ici, je fais un arrêt. Ce que Pierre et Jean sont en train de dire là, et les autres apôtres, au vu du Sanhédrin, c'est un blasphème qui mérite la mort. En disant, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. C'est un blasphème, ça. Parce que élevé par la droite, ça le faisait égal à Dieu. Donc, c'est un blasphème. Donc, et ces gens-là qui sont juifs, les apôtres, savent très bien que les paroles qui sortent de leur bouche-là peuvent leur valoir une sentence de mort, soyons clairs. Et regardez bien, à cause de la compréhension qu'ils ont maintenant, qu'ils n'avaient pas avant, ça leur donne une hardiesse. La connaissance peut avoir deux fonctions. Elle peut enfler, tu vas avoir une grosse tête qui ne passera plus dans la porte, ou elle peut te donner un autre élément différent qui est la hardiesse, parce que la connaissance peut t'ancrer dans la vérité. La connaissance peut te donner plus d'assurance dans la vérité. Souvent, je parle avec des personnes qui ont peur de témoigner à certains groupes et je leur dis, ayez confiance dans le Seigneur. On témoigne à qui on a à témoigner. Ce n'est pas nous qui choisissons. On ne sélectionne pas. On laisse Dieu amener les bonnes œuvres et nous les pratiquons. C'est tout ce que nous faisons. La personne est médecin, est ingénieur, est voire docteur en ce que vous voudrez. Peut-être que les premiers temps de ta conversion, ça peut être gênant. Mais avec l'assurance que tu devrais prendre à travers les enseignements, à travers ta lecture, à travers la prière, à travers ta communion avec Dieu, à travers ta communion avec tes bien-aimés, devrait placer, mettre en place cette assurance-là de faire la volonté de Dieu, de lui obéir à lui avant tout. Et Pierre va dire quelque chose dans la partie B du verset 31 pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Pierre n'avait pas cette connaissance-là quelque temps auparavant. Pierre avait même la connaissance d'un sauveur politique, d'un sauveur qui venait sortir les Romains de leur pays. N'oubliez pas que les Juifs vivaient sous occupation romaine quand Jésus est venu et les Juifs enseignaient à leurs jeunes, enseignaient le peuple que le Sauveur, il attendait un Messie régnant, pas un Sauveur par la repentance qui dit pardonner à vos ennemis. Ce n'est pas le type de sauveur qu'ils voulaient. D'ailleurs, c'est une des raisons principales pour lesquelles ils n'ont pas reconnu le Christ. Une des raisons principales, c'est que le Christ ne rencontrait pas leurs normes à eux, qu'eux avaient fixées en triant dans la parole. Ah oui, je vous dis comme tel. En triant dans la parole ce qui faisait leur affaire. On ne doit pas trier dans la parole ce qui nous arrange. On doit prendre la parole pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Des fois, vous savez, la parole de Dieu, des fois, elle m'arrange. Des fois, elle m'arrange moins de Dieu. Des fois, ça me dérange vraiment. S'il y a des choses qui ne sont pas droites dans ma vie, et ça se peut que l'esprit me montre des choses à travers la parole qui vont me déranger. J'ai le choix. De dire, ah, c'était pour une autre époque. Ah, ça les concerne à eux. Ah, il écrit ça à eux à cause d'eux. Ou de dire, Seigneur, c'est ta parole. Et tu m'exhortes, un exemple, à ne pas mentir. Je reprends le passage à Ananias et Saphira, qui est valide pour vous et moi aujourd'hui. Et je dis, ah, je vais construire un petit mensonge parce que je veux pas dire la vérité parce que mon patron ne sera pas content. Ou un autre ne sera pas content après moi, la vérité demeure ce qu'elle est, la vérité. Et cette vérité-là ne doit pas être avélie par tes pensées. Donc, ce que je suis en train de vous dire, plus votre connaissance augmente, plus vous êtes responsable devant Dieu d'obéir, d'être des... Et ce n'est pas populaire de nos jours, mais d'être des fils et des filles de Dieu, obéissant à la voix de Dieu, sa voix, entre autres dans la parole. Si on ne dit pas amen, on dit ouch. Soyons clairs. Pierre, ici, sa connaissance avait augmenté et sa vision a augmenté. Avant, il attendait un Christ qui mettrait les Romains dehors, puisqu'il demande à Jésus, lorsque Jésus annonce qu'il va revenir après dans Matthieu, 24, il dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Puis Dieu dit, c'est pas à vous de savoir les temps, les moments, et ainsi de suite. Soyons clairs, nous, on obéit à la parole. On voit que Pierre ici a cheminé, et on va voir plus loin dans Actes des Apôtres qu'il va cheminer encore en allant chez Corneille. La connaissance de Dieu n'est pas infuse. Plus nous marchons avec le Seigneur, et plus notre connaissance augmente, plus on décide d'obéir, plus Dieu nous amène plus loin sur le chemin de la foi. Je parlais avec une autre dame cet après-midi de qui je voulais avoir des nouvelles, une bien-aimée, son mari est malade. Je disais à ton mari que je prie pour lui. Et j'ai prié avec elle avant de raccrocher. C'est une sœur que aime le Seigneur. Elle a voulu m'encenser peut-être un peu. Et je lui ai dit, ben, je suis un homme de la même nature que toi. Je suis juste plus loin sur le chemin de la connaissance que toi. Toi, tu commences ta vie chrétienne et moi, je l'ai déjà entamée. Si je serais au même point, au point que toi, j'aurais un problème. C'est normal que je puisse te donner quelques directions parce que je suis un peu plus loin sur le chemin. Mais j'ai dit, c'est la même grâce que Dieu qui nous sauve tous les deux parce que nous sommes tous les deux pécheurs. Donc, on voit que la connaissance ici augmente et Pierre obéit à cette connaissance-là. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas si longtemps qu'apparut Todas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, il leur donne un conseil, il donne deux exemples avec son conseil quand je vais revenir tantôt. Je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Dieu se sert de qui il veut. Il s'est servi de Gamaliel, le même Gamaliel qui a enseigné Paul. Là. C'est cet homme-là, là, OK? Docteur de la loi. Vous savez que plus on est avancé dans une matière, Gamaliel choisissait ses étudiants. Il prenait la crème de la crème, si vous voulez. Et Paul a fait partie de l'école de Gamaliel. Paul va dire, je vous donnerai le verset tantôt, Paul va dire qu'il était élevé au pied de Gamaliel, soyons clairs. Donc, il va dire ici, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cet homme vient des hommes, elle se détruira. Pourquoi que l'Église existe encore ce 28 décembre 2020? Parce que ça ne vient pas des hommes. Il y a des hommes qui la gèrent jusqu'à un certain point. Il y a des hommes qui se consacrent à la faire fonctionner. Mais l'entreprise ne vient pas des hommes. Ici, il prend une expérience, même deux expériences de deux hommes, que les choses venaient de des hommes. Et ça s'est détruit. OK? Soyons clairs. Verset 39, sur lequel je mets un peu plus d'emphase. Mais si elle vient de Dieu, je ne sais pas, Gamaliel, là. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Vous ne pourrez la détruire. C'est pour ça que l'Église existe encore aujourd'hui. L'Église existe encore aujourd'hui. On en lit une partie là, ici. Cet homme-là, d'étude de la loi, qui n'avait pas reconnu Jésus plus que les autres, savait une chose. Il savait que quand une œuvre venait de Dieu, Dieu l'amenait à son terme. Dieu a dit quoi? Je bâtirai mon Église. Ce n'est pas Pierre qui l'a bâti. Pierre était un instrument parmi d'autres instruments. Ce n'est pas Pierre qui l'a bâti. Jésus a déclaré, je bâtirai mon Église. C'est pour ça que 2000 ans plus tard, l'Église de Christ est encore là. Parce que cette, on va dire ça même comme les gens nous appellent, organisation-là ne vient pas des hommes. Verset B partie B du verset 39. Ne courez pas le risque, d'avoir combattu contre Dieu. Ces gens-là avaient crucifié Jésus. Ces gens-là avaient renié Jésus. Ces gens-là attendaient un Messie. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Ils l'ont crucifié. Gamaliel, sans reconnaître Jésus, voit l'œuvre de l'Église, voit ce qui se passe dans la ville, et ainsi de suite. Et le petit hamster court chez Gamaliel et il va servir Dieu sans le savoir à la délivrance des apôtres parce que leur temps n'était pas venu. On nous dit que Pierre serait mort crucifié la tête en bas. Il y en a qui disent à Rome, d'autres disent à Babylone. On ne rentre pas dans les détails, mais on sait que Pierre est mort. On sait que les autres apôtres sont morts aussi. Mais ils ne sont pas morts là. Ils ne sont pas morts là pour une raison. Leur travail n'était pas terminé. Quand quelqu'un décède, quand quelqu'un part, la mort, ce n'est pas aléatoire. Tu ne te présentes pas devant le Seigneur et dis « Oh, je suis pris, je ne t'attendais pas, je ne t'attendais pas un matin. » Non, 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 du tout, du tout, du tout. Dieu nous garde ici tant qu'il le juge bon. La vie, la mort, ça lui appartient. Soyons clairs. Et verset 40, à cause de Gamaliel, à cause que c'était influencé par l'Esprit de Dieu, ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils se sont dit, on va serrer en comble. Ils avaient juste averti, rappelez-vous la première fois. Regardez bien ce qu'ils font. Ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, les apôtres ont été arrêtés, les apôtres ont été battus, je vous ai arrêté à certains endroits. La connaissance a augmenté et leur a donné de la résistance. Quand on dit, que ce soit moi, le pasteur Florent, le pasteur Sergio, que vous ayez trouvé conseil auprès du pasteur Bernard ou de son épouse Paulette, ou peu importe de vos pasteurs respectifs, si vous m'écoutez faisant partie de d'autres congrégations, soyons clairs. Soyons bien clairs. On cherche à affermir votre foi, on cherche à vous enseigner pour vous rendre des hommes, des femmes, des jeunes, des vieillards plus solides, plus obéissants. Lequel que si l'ennemi cherche à vous secouer, ça va être plus difficile de vous faire tomber parce que vous êtes ancré sur la parole de Dieu. La persécution n'a pas en rien diminué, mais en rien diminué le zèle des apôtres. Ça l'a augmenté, puisque le verset 42 nous dit que chaque jour, il était dans les maisons, il était toujours au temple, même s'il avait été arrêté, puis il ne cessait de rendre témoignage. Pourquoi? Parce que ces gens-là s'affermissaient de plus en plus, soyons clairs. Et comme je vous ai dit tantôt, le verset 31, Pierre, ce qu'il a dit, équivalait à un blasphème selon le Sanhédrin, il aurait pu être lapidé, mais leur temps n'était pas venu. Le temps de leur départ n'était pas arrivé. Et Dieu n'a pas permis qu'il nous arrive rien, soyons clairs. Pour ceux qui attendaient le verset sur Gamaliel, je vous le donne rapidement. En dessous de ça, je vous donne les deux exemples par lesquels ces gens-là ont été libérés, OK, soyons clairs. Gamaliel, qui était un enseignant très respecté, a enseigné Paul. Si vous tournez dans Actes chapitre 22, le verset 3, je vous lis le verset comme tel. Paul, dans une de ses défenses, après une arrestation, va dire « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » L'expression est « élevé au pied de Gamaliel », c'est-à-dire que Gamaliel était son professeur particulier comme un maître avec son élève, OK? Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, Gamaliel, qui était un homme respecté, un homme de la loi de Dieu, un homme connaissant du Pentateuque, des cinq premiers livres, je vais m'expliquer plus clairement, des cinq premiers livres de la Bible, des prophètes, et ce, a enseigné exactement à Paul, a sûrement fait plusieurs répliques de Paul, si je peux dire comme ça, par l'enseignement. Cet homme-là, Gamaliel, Dieu va s'en servir, même si c'est un inconverti. Il va s'en servir et il va même donner Gamaliel deux, et je vous le donne à titre d'info, va même donner deux exemples. OK? Il va parler de Todas. Todas avait échoué dans son entreprise. Il voulait former une nouvelle religion, on va dire ça de même. Et selon l'historien Flavius Joseph, qui a vécu dans ces temps-là, il avait dirigé une bonne partie d'un groupe assez important de personnes et il avait amené ses disciples jusqu'au Jourdain. Puis il avait dit, je vais frapper les eaux, comme dans le temps de Josué et de Moïse, je vais frapper les eaux et les eaux vont se séparer. Ce n'est pas arrivé. Ça ne s'est pas produit. Et les Romains sont venus et Fadius, le procurateur du temps, ils ont décapité Théodas. Ils ont tué nombre de ses disciples et le mouvement s'est arrêté là. L'autre exemple que Gamaliel donne, c'est Judas, non pas Judas l'Iscariote, mais Judas de Galilée, qui a créé une révolte. Et c'est pour ça que Gamaliel va dire que ça s'est passé du temps du recensement. Ce recensement-là a eu lieu en l'an 6 sous Quirinius. Cet homme-là il s'est levé contre le recensement parce que le peuple d'Israël, on n'a pas le droit d'être recensé. Et il a amené des gens à son parti et ça a été naturellement réprimé par les Romains qui ont tué Judas le Galiléen et qui ont dispersé ses disciples et le mouvement est mort dans l'œuf. Et Gamaliel va dire, si ça vient des hommes comme c'est venu des hommes-là, ça va se détruire. Plus vous allez vous en occuper, ça va être de plus en plus. Mais si ça ne vient pas des hommes, vous allez avoir combattu contre Dieu, puis vous ne le détruirez pas. Et c'est exactement ce qui se produit. Ils combattent Dieu et ça ne se détruit pas. Soyons bien, bien clairs. Je vous garde encore 10 minutes, si vous me permettez, parce que je veux aborder quelque chose avant de clore. Je crois que j'ai le temps de le faire. Je veux aborder un autre sujet. Maintenant, on a vu Ananias et Saphira. On a vu un peu ce mouvement-là de crainte et ainsi de suite a créé un autre mouvement où il y avait beaucoup de conversions. Naturellement, ceux qui étaient contre les apôtres, savoir le parti des pharisiens et des sadducéens, se sont levés, ont voulu étouffer le mouvement, mais la chose venait de Dieu. Si la chose venait de Dieu, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et l'Église continue à être bâtie même aujourd'hui en l'année de grâce 2020, là, soyons clairs. Mais ça n'empêche pas que l'Église n'est pas parfaite. Elle n'était pas du temps des apôtres, puis elle n'est pas du temps aujourd'hui. J'ai déjà dit une fois à quelqu'un, si tu cherches l'Église parfaite, et si tu la trouves, ne rentre pas dedans. La journée que tu vas rentrer dedans, elle va devenir imparfaite. Parce que l'Église parfaite, c'est une Église vide. Il n'y aura même pas de pasteur, soyons clairs. Parce qu'on est imparfait. Et l'exemple que je vais vous donner, on va regarder ici l'institution des diacres, qu'on appelle dans l'Église. Je veux fermer avec ça pour vous montrer la somme des choses. Après avoir tout fait ça, on se dit, hey, c'était tous des hommes, ils avaient fait des miracles et ainsi de suite, ils se sont fait battre de verge, ils ont continué. Dieu les a délivrés par un ange, Dieu les a même délivrés par un pharisien. Donc, Dieu est puissant. Amen, mais ça ne rend pas l'homme parfait. Les apôtres n'étaient pas parfaits. Je ne crois pas que vos pasteurs, en tout cas si les autres, mes autres confrères pasteurs sont parfaits, celui qui tient devant vous, croyez-moi, je vis avec lui depuis 62 ans bientôt, soit 61 ans pour l'instant, je peux vous dire que je suis loin d'approcher la perfection, très très loin. OK, soyons clairs, si vous n'êtes pas convaincu, vous avez juste à parler à ma femme, elle va pouvoir vous rassurer sur la chose. Soyons bien, bien clairs, les apôtres, c'était des hommes de Dieu, des hommes. J'ai déjà dit à une dame qui allait marier un homme qui était dans le ministère, était jeune chrétienne. Dans ce temps-là, j'étais en charge des portiers et était portière parmi mes portiers. Puis elle me disait tout le temps, « Oui, mais c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Oui, mais c'est un homme de Dieu. » Mais je dis, tu me l'as dit, c'est un homme de Dieu. C'est un homme. Je dis, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme. Soyons clairs. Les versets 1 à 7 du chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, les apôtres, les dirigeants de l'Église primitive, au début, avaient pris toutes les responsabilités. Hein, du temps d'Ananias, Saphira, ceux autres qui faisaient la distribution. Puis à un moment donné, ils ont été submergés. Ils ont été débordés. Et il y a une décision qui se prend. La décision qui va se prendre, c'est suite à une injustice qui se commet. C'est suite à une erreur, peut-être même de bonne foi, qui s'est commis versus les apôtres, parce que c'est eux autres qui avaient tout en main là, pour l'instant. Et vous allez voir que les apôtres n'ont jamais nié le fait, ne sont jamais retranchés en disant hey, faites attention, je suis un apôtre, je suis un pasteur. Non, ils ont dit la chose est ainsi, voilà comment est-ce qu'on va faire les choses. On va avancer, on va faire différemment. Et on voit ici les premiers diacres. Bien qu'ils ne portent pas le nom de diacre, ils en ont la fonction. Un peu comme notre frère Lionel à l'église. Il n'est pas seul, il y a de l'aide. Mais il sert, il fait du diaconat, là, ce bien-aimé-là. Okay? Et même quand des gens viennent me voir ou vont voir un autre des pasteurs ou qu'il y a un besoin qui se manifeste au milieu du peuple, que ce n'est pas du domaine pastoral, eh bien, généralement, je réfère les gens au bien-aimé. Je lui dis, je vais t'amener vers un frère qui va pouvoir t'aider à ce niveau-là. Et je m'en excuse auprès du frère Lionel. Je sais qu'il est surchargé, mais des fois, des gens qui sont dans le besoin financier ou quelque chose. Et j'amène ces gens-là vers le frère Lionel. De toute façon, nous, dans le corps pastoral, on a pris certaines décisions ensemble, le corps pastoral. C'est deux comités différents, le comité des finances. Le comité des finances n'est pas mélangé avec nous, là. Nous, nous occupons, nous gérons les âmes. Et le frère Lionel, avec son équipe, regarde les moyens par lesquels l'Église peut subvenir à des choses. Deux choses différentes. Mais mon but, c'est de pas rentrer dans, je veux pas rentrer dans les détails du détail du détail. Je veux tout simplement vous dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a poussé à une décision. Des fois, Dieu permet des choses qui vont pousser à une décision, à améliorer l'Église. On fonctionne depuis quelques années à l'Église d'une façon différente qu'on a déjà fonctionné. Maintenant, on fonctionne en collège pastoral. Le collège pastoral, même si le pasteur Florent est le pasteur senior, il fonctionne, ce bien-aimé-là, de façon collégiale, qu'on appelle. Et on a établi certaines règles, certaines choses, certaines façons de fonctionner. Je vous en ai nommé une tantôt. Le fait qu'il y a séparation entre les deux départements, si vous voulez, il y a plus que deux départements, mais en tout cas, ces deux départements-là. Et ici, le problème rencontré par les apôtres, c'était la distribution des biens. L'argent a toujours été quelque chose qui est fragile, qui a toujours été quelque chose, une corde sensible chez le chrétien individuel, chez les groupes, et ainsi de suite. C'est pour ça que je crois qu'un corps pastoral ne doit pas être mêlé aux finances d'une église, qui doit avoir un groupe dédié aux finances, qui doit voir au fonctionnement de l'église. Point à la ligne. Et les apôtres le faisaient de bonne grâce, de bon cœur, mais il est arrivé un problème qu'ils ont dû gérer et ils ont engagé le frère Lionel. Vous dites ça à la blague, là. Ils ont dit, trouvez-nous des hommes dans l'église de qui on rend un bon témoignage. Regardez bien les critères. Verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, plein d'Esprit Saint, puis de sagesse. Donc, il donne trois choses ici. Dans les épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite, Paul va donner, il va encore serrer ça pour que quelqu'un soit diacre. Okay? Soyons clairs. Et les apôtres n'ont pas fait de négation. Ils n'ont pas dit non, on va en parler plus tard, on va mettre ça sous le tapis. Ils ont dit on va gérer le problème. Il y a un problème, il faut le gérer. Donc, ils n'ont pas fait la sourde oreille. Ils n'ont pas dit attention, c'est nous autres les pasteurs. Ils ont dit il faut gérer le problème. Donc, ils ont dit à la multitude trouvez-nous cette personne de qui on rend un bon témoignage. Qui sont pleins d'Esprit Saint, qui sont sages. Mais on va les charger de cet emploi. Pourquoi? Parce que notre emploi à nous, elle est différente. Je sais qu'aujourd'hui, dans les milieux pastoraux, et je le sais pour le vivre, et right, c'est correct, là. Et je vous le dis franchement, c'est correct. On doit, maintenant, un pasteur doit avoir plusieurs cordes à son arc, que j'appelle. Hein, il doit être un petit peu psychologue, un petit peu conseiller matrimonial, même des fois un petit peu conseiller financier. Regardez, il doit avoir plusieurs cordes à son arc, là. Et il doit avoir une connaissance un peu plus large. Mais regardez ce que l'apôtre va dire, ce qui les concerne. Donc, principalement, le cœur de leur travail, verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Toutes les formes du ministère de la parole là, qui peuvent se décaler en éventail là, multicolore, soyons clairs. Et il va dire, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. Donc, le rôle premier de votre corps pastoral, le rôle premier de vos pasteurs, c'est de prier pour vos âmes. Moi, quand je téléphone à des gens, après ça, je prends toujours un temps de prière, c'est de prier pour vos âmes. C'est d'étudier la parole. C'est d'être apte à vous nourrir avec la parole. C'est le rôle premier d'un pasteur. Aujourd'hui, on veut qu'un pasteur soit un homme orchestre. Soyons clairs. Mais, pour vous dire la vérité, tant mieux si les pasteurs, c'est des hommes orchestres. Mais d'abord, ils doivent être voués à la prière et à l'étude de la parole et à la transmission de cette parole-là. Donc, Pierre, loin de nier le problème, les apôtres, loin de mettre le problème sur le tapis, ils disent, on va gérer le problème. On va gérer le problème en s'associant à des hommes, mais pas à n'importe qui. Ils ont institué des diacres qui avaient la capacité du diaconat. Première chose qu'ils voulaient, des gens de qui on a un bon témoignage. C'est pour ça que des gens, des fois, ils disent, mais pourquoi dans l'Église, je peux... ça prend un bon témoignage? Bien, on ne peut pas prendre un nouveau converti, il n'y a pas de témoignage encore. Donc, ça prend d'abord un bon témoignage. Deuxièmement, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint, qu'ils ne soient pas dirigés par leur chair, mais qu'ils soient dirigés par l'Esprit, parce qu'ils vont prendre des décisions pour l'Église de Dieu et de sagesse. Quand on parle de sagesse ici, on parle, la sagesse ici, souvent dans la parole de Dieu, c'est ça va avec la cabeza, l'intellect, avec l'intelligence. Donc, il dit, de qui on rend un bon témoignage, premièrement, donc des gens qui ont un témoignage, des gens qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, qui vont prendre des décisions intelligentes, soyons clairs. Et je vous donne quelques versets, et je vous ai gardé plus longtemps, je ne m'en veux pas du tout à moi, mais je termine. Je termine dans quelques minutes. Donc, dans Romains, au chapitre 16, verset 1, on voit qu'il peut y avoir des femmes et des hommes. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sandré. C'est une diaconesse. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, les églises devraient avoir des diacres pour libérer le corps pastoral. D'accord? J'en prends un autre rapidement comme ça. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Ça, c'est une des épîtres pastorales. Les diacres aussi doivent être, et c'est là que je vous disais que Paul ajoute, les diacres aussi doivent être honnêtes. Si on aurait mis Judas Iscariote au volant de notre église, probablement qu'on serait dans le rouge. Mais on a mis le frère Lionel à la place. OK, soyons clairs. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, d'un cas double, si vous voulez, des excès du vin et d'un gain malhonnête ou sordide. Les diacres devaient, comme je vous ai dit, avoir une bonne réputation. Ici, Timothée rajoute à cela, les apôtres, non offusqués, non frustrés, ont géré la chose, ont choisi des gens. Et ici, je vais dire quelque chose qui ne fera pas plaisir à personne, ou quasiment à personne. Dieu ne choisit pas comme nous choisissons. Dieu ne choisit pas si on fait des choix par l'Esprit de Dieu, de la même façon que nous. Il ne fonctionne pas avec notre logique. Tous les hommes qui nous sont mentionnés ici, pour le premier corps de diacres qu'il y a eu, est-ce que vous vous rappelez qui se plaignait que leur veuve était négligée? C'était les hellénistes, ceux de culture grecque. Et tous ceux qui sont nommés là ont tous des noms grecs. Donc, ils n'ont pas dit, « Ouais, il faut faire attention, il faut qu'il y ait une parité homme-femme. » C'est nos gouvernements qui font ça. Et on dit, ouais, il faut qu'il y ait la moitié d'hébreux puis la moitié de grecs. Il faut faire attention. Et on dit, on va prendre ceux qui ont les compétences spirituelles pour exercer. Ils n'ont pas dit, oui, il faut avoir autant de personnes foncées que de pâles. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige une église. Si une église est dirigée par l'Esprit de Dieu, peu importe la couleur de peau. Peu importe c'est un homme ou une femme. On regarde les critères de la Bible pour mettre quelqu'un en place. Toute autre considération est de trop. C'est sûr qu'on se plaît bien à prendre quelqu'un que son crayon, surtout pour mettre au niveau finance, son crayon par des chiffres, comme j'appelle, s'il compte par les deux bouts, on va avoir un problème. Donc, on prend des gens qui ont une compétence. Mais par-dessus cette compétence-là, on ne regarde pas si c'est un homme ou une femme. Au niveau du diaconat, je vous parle. On pourrait parler d'autres choses, ce n'est pas le but, là. Au niveau du diaconat, on regarde, est-ce que ces gens-là ont un bon témoignage? Est-ce que ces gens-là sont remplis d'Esprit Saint? Est-ce que ces gens-là ont de la sagesse? Ce qui nous est dit dedans Timothée, est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont éloignés de duplicité? Est-ce que s'ils prennent un verre, ils prennent juste un verre, ils n'en prennent pas 20? Est-ce qu'ils aiment trop l'argent? Et ainsi de suite. C'est tout ce qui doit guider le choix. Eux ont pris toutes des hellénistes. Toutes des hellénistes. Et soit dit en passant, tous ceux qui ont pris, qui ont été présentés à l'Église, les apôtres ont commencé par prier, d'abord. Ensuite de ça, ils ont prié, ils les ont imposé les mains. Ils ont commencé par prier, eux. Ils disaient, OK, Seigneur, ils ont tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on les met en place? Puis ensuite de ça, ils les ont mis en place. Ils ont laissé exercer leur ministère. Les hommes qui ont été choisis là, il y en a certains parmi eux, deux particulièrement que je vais vous nommer, Étienne, homme qui était nommé là, qui devient Étienne évangéliste que confond les autorités de son temps, d'ailleurs, qui ont lapidé. Et il y a Philippe, l'évangéliste, qui avait aussi, rappelez-vous, des filles qui prophétisaient. Ces diacres-là, et c'est souvent ce qui arrive, Dieu commence à nous faire faire des petites choses. Nos compétences se développent. Dieu affine notre relation avec lui, fait grandir en nous, par l'exercice du ministère, nos capacités, et ensuite de ça, nous amène à exercer plus d'autorité au milieu de son peuple. Parce qu'il ne faut pas que ce soit fait avec orgueil, mais avec humilité. Il nous met dans des endroits, des fois, un peu plus cachés, des endroits où ton travail est moins vu, entre parenthèses, et il te laisse croître. Donc, n'aie pas peur des petits boulots dans le Seigneur. Moi, personnellement, je travaillais de nuit quand je suis venu au Seigneur, et mon travail, c'était de faire le ménage. Et après que le bâtiment est passé au feu, on était tout un groupe, là, mais on gardait, en fin de compte, la construction. Et je me rappelle qu'on se réunissait dans des salles qu'on louait, dans des auditoriums, principalement une sur la rue Sauvé. Et je me rappelle qu'il fallait que j'arrive, le pasteur Fontainebleau, on m'a demandé d'arriver beaucoup plus tôt parce qu'il fallait ramasser les choses, que la salle soit propre pour que le culte ait lieu. Okay? Soyons bien, bien clairs. Le pasteur Fontainebleau ne m'a pas dit « Hey, t'es bon pour faire le ménage. T'aimerais-tu être pasteur, toi? » Non. Suivant ça, j'ai commencé après ça à être portier. Et ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, et je le répète, par la grâce de Dieu, le Seigneur, à un moment donné, m'a appelé à donner la parole. Donc, soyons clairs, parmi le travail que Dieu nous demande, des petits travails, Dieu est en train de nous construire. Ces diacres-là ont été construits, avaient des qualités qui étaient en eux, que Dieu a pu travailler à travers les différentes décisions qu'on a eu à prendre en tant que diacre. Et c'est juste ça que je voulais mettre comme dernier socle, et je vous ai gardé beaucoup plus longtemps, vous m'en excuserez. Et ils ont voulu nommer des gens. Dieu a poussé une situation vers l'avant. Eux, les avons dit, et c'est vrai, poussons-les. Ils n'ont pas choisi avec des critères humains, sinon ils auraient dit, ben, moi, moitié juif, moitié peut-être moitié femme aussi, comme on fait dans nos gouvernants. Non, ils se sont laissés guider par le témoignage, avant les capacités, par le témoignage qui était donné, par la sagesse, par l'Esprit de Dieu, par le style de vie que ces gens-là menaient, Et en dessous de ça, ils ont laissé exercer. Et deux d'entre eux particulièrement, on nous les montre plus loin, où ça les a aiguisés, affinés, et où Dieu les a amenés plus loin. Donc, les petits boulots dans le Seigneur n'existent pas. Et ici, je vous le dis le plus sérieusement du monde. Les petits boulots n'existent pas. On fait tous notre boulot. Dieu, des fois, nous laisse 2 ans à la même place, 10 ans. Tu peux te laisser toute ta vie au même endroit. C'est lui qui distribue. Ce n'est pas nous. On ne choisit pas la place où on va. C'est Christ qui choisit la place qu'on occupe. Et un n'est pas meilleur que l'autre, soyons clairs. Un a une fonction différente de l'autre. Mais même si tu sais que tu as un appel au ministère, ça pourrait, ça se pourrait. Ce n'est pas possible que Dieu commence par te demander un petit boulot pour t'aiguiser, pour t'affiner, pour te construire. Pour pas que l'ennemi puisse te démolir quand tu vas avoir le boulot plus difficile. Soyons clairs. J'arrêterai là. J'arrêterai là. C'était la portion pour terminer diaconat. Soyons clairs. Et la semaine prochaine, on va regarder les persécutions qui accompagnent la croissance de l'Église. On va voir qu'il va y avoir une persécution qui va créer un grand trouble. Donc, la semaine prochaine, non, l'année prochaine, on va prendre à partir du chapitre 6, les versets 8 à 15. Donc, je vous en ai donné plus large, je vous en ai donné un peu plus aujourd'hui. Pardonnez-moi si je vous ai retenu plus longtemps qu'habituel, mais je croyais nécessaire de boucler cette boucle-là, bien-aimé. J'en profiterai de façon personnelle pour vous donner à tous mes voeux de bonne année à ce niveau-là. Hein, le premier de l'an est vraiment le premier de l'an. Et en cela, je me réjouis. L'année 2020 a été difficile, mais je me réjouis qu'on ait pu passer ce temps-là ensemble. Dieu a choisi la façon dont on passera ensemble. Ce n'est pas vous ni moi qui avez choisi cette façon-là. Dieu l'a choisi, mais je veux rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis, par un ordinateur, de pouvoir quand même avoir accès aux bien-aimés, d'avoir accès à vous. Et que 2021 puisse nous donner peut-être un peu de relâche au niveau des mesures qui sont les nôtres pour l'instant, et puisse donner un nouvel essor à l'Église à ce niveau-là. Recevez tous et chacun et chacune, et les grands, les petits, les jeunes et les moins jeunes et les pas jeunes. Recevez tous à ce niveau-là, de façon personnelle, là, comme je vous le dis, mes voeux les plus sincères. J'aime l'Église de Dieu. J'aimerais mieux vous voir les yeux dans les yeux, mais j'aime l'Église de Dieu parce que Christ m'a aimé avant. Et il m'a donné cet amour-là pour son Église qui est son corps. Donc, je rends grâce à Dieu d'avoir pu participer cette année par ces réunions-là, un peu à quelque enseignement que ce soit. Là-dessus, sans faire trop d'émotion, on va tout simplement clore. N'oubliez pas le rendez-vous que le pasteur Florent vous a convié, rendez-vous de fin d'année. Qui va venir le 31 à 11h15, 23h15 jusqu'à minuit. C'est un petit temps où il va y avoir un petit programme pour tous. On ne peut pas le faire en présentiel. Nous le ferons tout de même. Paul dit réunis en esprit, si vous voulez. D'accord? Donc, rendez-vous à ne pas manquer. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, d'avoir pu partager la parole avec les bien-aimés. Que ta parole, Seigneur, puisse nous changer, nous transformer, nous faire maturer, nous amener, Seigneur, à être des serviteurs doux, humbles de cœur, et à chercher, non pas avoir raison, non pas mais de chercher l'avancement de ton royaume, au milieu des persécutions, au milieu de l'abondance, au milieu des situations qui sont les nôtres. chacun en particulier et aussi en tant que corps local. Que ton peuple, Seigneur, puisse être enrichi, Seigneur, de toi. Je le remets entre tes mains. Il ne peut pas se trouver entre de meilleures mains parce que c'est toi qui bâtis l'Église, c'est toi qui construis ce qu'est l'Église, Seigneur. Donne-nous à nous, Seigneur, qui sommes responsables et qui devons rendre compte devant toi. Donne-nous, Seigneur, d'être de bons serviteurs et donne, Seigneur, à ce peuple, Seigneur, ce qu'il a besoin pour sa croissance. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, soyez bénis. On reprend le tout la semaine prochaine, ou plutôt l'année prochaine. Dieu vous bénisse.